Alors, j'avance un peu. Sinon, vous dites à minuit, je suis toujours là. Sade a aussi, là, on a vu sa philosophie. Sade a aussi été un grand théoricien de la fiction et de l'art à son époque. Il faut aussi entendre peut-être son œuvre esthétique, hein, la partie de son œuvre dans laquelle il a vraiment tenté de comprendre ce que devait être un bon récit et l'effet sur le spectateur. Alors, c'est un passage qui se trouve dans l'idée sur les romans, la préface dont Sade accompagne son grand recueil de nouvelles qu'il signe, qui s'appelle « Les crimes de l'amour » en 1800. C'est une des rares préfaces théoriques de Sade.
« Je n'exige essentiellement de toi qu'une seule chose, c'est de soutenir l'intérêt jusqu'à la dernière page. Tu manques le but si tu coupes ton récit par des incidents ou trop répétés ou qui ne tiennent pas au sujet. » Que ce que tu te permettras soit encore plus soigné que le fond. Tu dois des dédommagements au lecteur quand tu le forces de quitter ce qui l'intéresse pour entamer un incident. Il peut bien te permettre de l'interrompre, mais il ne te pardonnera pas de l'ennuyer. Que tes épisodes naissent toujours du fond du sujet et qu'ils y rentrent. Si tu fais voyager tes héros, connais bien le pays où tu les mènes. Porte la magie au point de m'identifier avec eux. Songe que je me promène à leur côté, dans toutes les régions où tu les places, et que peut-être, plus instruit que toi, je ne te pardonnerai pas ni une invraisemblance de mœurs, ni un défaut de costume, et encore moins une faute de géographie. Comme personne ne te contraint à ces échappées, il faut que tes descriptions locales soient réelles, ou il faut que tu restes au coin de ton feu. C'est le seul cas, dans tous tes ouvrages, où l'on ne puisse tolérer l'invention. À moins que les pays où tu me transportes ne soient imaginaires, et dans cette hypothèse encore, j'exigerai toujours du vraisemblable. Évite la fêterie de la morale. Ce n'est pas dans un roman qu'on la cherche. Si les personnages que ton plan nécessite sont quelquefois contraints à raisonner, que ce soit toujours sans affectation, sans la prétention de le faire, ce n'est jamais l'auteur qui doit moraliser, c'est le personnage, et encore, ne lui permettons que quand il y est forcé par les circonstances. Une fois au dénouement, qu'il soit naturel, jamais contraint, jamais machiné, mais toujours né des circonstances, je n'exige pas de toi, comme les auteurs de l'encyclopédie, qu'il soit conforme au désir du lecteur. Quel plaisir lui reste-t-il quand il a tout deviné ? Le dénouement doit être tel que les événements le préparent, que la vraisemblance l'exige, que l'imagination l'inspire. Et avec ces principes que je charge ton goût et ton esprit d'étendre, si tu ne fais pas bien, au moins feras-tu mieux que nous. Car il faut en convenir, dans les nouvelles que l'on va lire, le vol hardi que nous nous sommes permis de prendre n'est pas toujours d'accord avec la sévérité des règles de l'art, mais nous espérons que l'extrême vérité des caractères en dédommagera peut-être. La nature, plus bizarre que les moralistes ne nous la peignent, s'échappe à tout instant des digues de la politique, de ceci, que ceci voudrait lui prescrire. Uniforme dans ses plans, irrégulière dans ses effets, son sein toujours agité ressemble au foyer d'un volcan d'où s'élancent tour à tour ou des pierres précieuses servant au luxe des hommes ou des globes de feu qui les anéantissent. Grande quand elle peuple la terre d'Antonin et de Titus, affreuse quand elle y vomit des Andronicus ou des Néron, mais toujours sublime, toujours majestueuse, toujours digne de nos études, de nos pinceaux et de notre respectueuse admiration. Parce que ses desseins nous sont inconnus et qu'esclaves de ses caprices ou de ses besoins, ce n'est jamais sur ce qu'ils nous font éprouver que nous devons régler nos sentiments pour elle, mais sur sa grandeur, sur son énergie, quels qu'en puissent être les résultats.
Alors, très beau texte hein, de Sade, un de ceux que je préfère et un des rares dans lesquels il définit ce qu'est pour lui la fiction. Quelque chose qui ne doit jamais ennuyer le lecteur. Hein, il faut toujours capter son intérêt. Et surtout, quelque chose qui est toujours dissocié de la morale. Hein, Sade nous montre bien que nous, lecteurs, notre plaisir, et nous, spectateurs, c'est la même chose au théâtre, n'est jamais moral. C'est la grande philosophie esthétique du XVIIIe, ce qu'on a appelé l'intensivisme, et Diderot l'a théorisé aussi un peu avant Sade, qui montre qu'en fait, au spectacle, ou à la lecture d'un roman, nous cherchons toujours, nous, ce qui est le plus intense pour nous, ce qui nous fait le plus d'effet. Or, ce qui nous fait le plus d'effet n'est jamais moral. Par exemple, comme spectateur ou lecteur de fiction, ce qui va le plus nous marquer et donc nous faire l'effet le plus fort, c'est le juste supplicié. Ce n'est pas le méchant sanctionné. Quand vous voyez un film dans lequel le méchant est puni à la fin, vous dormez bien après. Et donc, en termes d'effet, c'est assez faible. Alors que quand dans le même film, le juste est puni, là vous dormez mal. Mais en même temps, vous prenez un plus grand plaisir. Ce plaisir est dissocié de la morale. C'est ce que Sade analyse de manière très intéressante et ce qu'il va d'ailleurs mettre en pratique dans son œuvre, ce qui fait qu'effectivement l'histoire de Justine est sans doute plus intéressante que celle de Juliette, même si elle est plus douloureuse. C'est cette dissociation qui est pour lui très importante. En plus, dernier point, ce que Sade nous exige de la fiction, c'est de nous montrer la vérité de l'homme. Mais il le dit avec des métaphores à la fin de son texte. La vérité de l'homme, il utilise deux métaphores. Elle est comme un torrent qui sort des digues qui sont construites pour le contenir. La vérité de l'homme, elle est toujours une espèce de débordement, de transgression. Autre métaphore qu'il utilise dans le texte, une éruption volcanique. Il dit c'est ça la fiction qui fait sortir la vérité. C'est comme un volcan. Tout sort du volcan. Les pierres les plus précieuses, les diamants, qui sont donc les beaux humains, les gens de bien, et puis les cailloux sombres, stériles, les nérons, les monstres. C'est ça l'humain, il y a de tout. Et donc la fiction pour ça devra elle aussi nous montrer les personnages tels qu'ils sont et non pas tels que nous voudrions qu'ils soient, c'est-à-dire avec des diamants, et aussi avec des cailloux stériles. Ce qui suppose, quand on lit Sade, qu'on accepte l'idée que la vérité de l'homme soit complexe, ne soit surtout pas monochrome, mais qu'elle ait en tout cas sa part de noir. Alors, cette noirceur, on sautera juste peut-être le 6, parce que sinon on ne va pas y arriver, vers le 5 et le 7. Pardon, cette note de régie. Cette noirceur, elle s'incarne quand même, il faut bien en parler, dans ce qu'on a appelé le sadisme. Est-ce que Sade théorise le sadisme, c'est-à-dire l'association de la jouissance et de la souffrance? Oui. Il analyse dans plusieurs passages de son œuvre, et en particulier là dans l'histoire de Justine, quel plaisir nous pouvons trouver à faire le mal. Alors, il faut entendre aussi le Sade, théoricien du sadisme.